Enseigne que toute personne naît avec une tendance à faire le mal et qu'elle est par conséquent condamnée d'office à une perdition éternelle. Il est également affirmé que ceux qui pêchent, et personne n'échappe au péché, prouvent par leur conduite que l'homme possède dès l'origine une nature corrompue. Si cette théorie était vraie, Adam aurait hérité cette nature de son créateur puisqu'il est un fils de Dieu. Cela reviendrait à énoncer une absurdité, c'est-à-dire que l'éternel serait donc lui aussi corrompu dans sa nature. Adam a péché en succombant à la tentation, tandis que Dieu, nous dit la Bible, ne peut être tenté par le mal. Satan s'est adressé à l'être humain en lui faisant miroiter le plaisir charnel, le plaisir des yeux et la vaine gloire de la vie. Il dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme, qui avait sans aucun doute compris la volonté de Dieu, répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Le tentateur, usant d'une tactique très subtile, rétorque alors, « Mais vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Cette tentation est aussi alléchante que vaste dans sa portée. Elle fait croire à Ève que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, double avantage pour l'esprit et les yeux. Puis vient un pressant appel à la vaine gloire et à l'orgueil du monde. Vous serez comme des dieux. Adam et Ève, trompés par Satan, perdent confiance dans leur Créateur et lui désobéissent. Ils deviennent ainsi de propos délibérés les tout premiers pécheurs. C'est leur libre arbitre qui les a amenés à violer la volonté de Dieu. Et ils n'ont nullement hérité de leur péché. On ne peut pas dire non plus que leur chute avait été préordonnée par Dieu, ni qu'ils étaient prédestinés par l'Éternel à tomber. Si Adam et Ève étaient de toute manière prédestinés à pécher, et que l'ordre de leur chute était préordonné, alors il faudrait admettre, en toute logique, que le cours des événements échappait à leur décision, et que le vrai responsable de leur désobéissance était donc Dieu lui-même. L'Éternel aurait donc, si l'on adhère à cette idée, introduit le péché dans le monde. Or, cette conclusion est absolument erronée, et chacun en conviendra. Les Écritures décrivent Adam comme étant entièrement libre de ses décisions et de ses actes. Il en va de même pour tout être humain sur cette terre. Adam a véritablement choisi la désobéissance. Et rien ne permet d'affirmer que cette tendance lui a été transmise d'office, comme on voudrait le croire. Dieu avait interdit la consommation du fruit de l'arbre se trouvant au milieu du jardin. Adam et Ève savaient, par conséquent, à quoi s'en tenir. De plus, ils avaient été créés capables d'exercer un choix précis, obéir à Dieu en refusant de manger du fruit défendu et vivre, ou en consommer et mourir. Non seulement Adam n'a pas hérité de ses péchés de son père, mais par ailleurs, il ne les a pas du tout transmis non plus à ses enfants. La théorie de la dépravation héréditaire de l'homme affirme que chaque être humain naissant dans le monde est totalement dépravé et pleinement pécheur par définition à cause des péchés qui n'ont été transmis par ses parents et son ascendant Adam. Cette théorie prétend à tort que la nature d'Adam a été corrompue par le péché et que tout le monde a par conséquent hérité de lui d'une nature corrompue et pécheresse. Il est certain que la loi de la procréation provient de Dieu et est destinée à perpétuer la race humaine. Mais pourrait-on logiquement concevoir que Dieu, en vertu de la loi de procréation de l'espèce, puisse faire naître d'innombrables créatures humaines pour la nature propre et d'être corrompus et qui vont par conséquent pécher sans qu'aucune autre alternative ne leur soit offerte pour ensuite les châtier à cause des fautes qu'ils ne pouvaient de toute manière pas éviter de commettre. Il est faux de prétendre que dès l'instant de sa naissance, l'enfant vit en état de juste condamnation pour la raison qu'il aurait hérité d'une nature corrompue. Dieu déclare en Ézéchiel 18:4 « Toutes les âmes sont à moi ». Et on voit assez mal sur quoi se basent ceux qui professent que dès sa naissance, l'enfant est déjà séparé de Dieu en vertu d'une hérédité de péché. La théorie de la dépravation innée se base notamment sur le 7e verset du 51e psaume, dans lequel il est dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». On s'est hâté de conclure que David était né dans le péché et qu'il était par conséquent dans la dépravation de l'iniquité dès sa naissance. Mais il n'en est rien. Cette déclaration du roi David contient en réalité deux parties. L'une parle de la condition spirituelle de sa mère et non de la sienne, puisqu'il est dit « ma mère m'a conçu dans le péché ». L'autre, rapport à lui-même, puisqu'il affirme « je suis né dans l'iniquité ». Mais David ne dit à aucun moment qu'il est né dans une nature corrompue et pécheresse. Le monde dans lequel il est né était un univers d'iniquité, dans lequel le péché prédominait, et c'est tout simplement ce qu'il entend par être né dans l'iniquité. Il est faux de croire que les enfants héritent des péchés de leurs ancêtres ou de leurs parents et naissent par conséquent pécheurs. La Bible dit à propos de Jacob et Ésaü, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal », cette simple phrase montre bien qu'ils n'étaient pas pécheurs avant de naître. Ils ne le sont devenus qu'après lorsqu'ils ont commencé à faire le mal. Jacob et Ésaü n'avaient donc pas hérité d'aucune iniquité. Avant leur naissance, ils étaient innocents et sans péché, puisqu'ils n'avaient commis aucun mal. Il existe dans la Bible, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, un autre passage qui concerne le même point et qu'il est intéressant de lire. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et non de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nombre de gens dont la sincérité est évidente ont conclu que tout être humain naît pécheur et qu'il est par nature un enfant de perdition. C'est là méconnaître un fait capital. L'apôtre Paul déclare ici que les personnes auxquelles il s'adresse étaient mortes. Mais étaient-elles nées mortes? Absolument pas. Leur mort spirituelle était due à leurs offenses et à leurs péchés. Elles étaient mortes parce qu'elles avaient vécu selon les convoitises de la chair, parce qu'elles s'étaient laissées dominer par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Ces hommes n'étaient nullement nés morts en vertu de la transmission d'une faute originelle, mais étaient morts par le péché à cause de leur désobéissance à Dieu. Ces gens, à qui Paul adresse ces vérités, étaient loin d'être des enfants entachés dès leur naissance par le péché, mais par contre, assez mûr et assez responsable que pour avoir choisi délibérément de marcher selon le train de ce monde. Comment peut-on dès lors concevoir qu'un bébé, qu'un petit enfant innocent, puisse désobéir à Dieu alors qu'il est totalement incapable d'obéir et de désobéir à qui que ce soit? Peut-on imaginer un enfant marchant selon le train de ce monde, ce qui comprend, entre autres, selon la Bible, la publicité, la pureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie et tant d'autres choses. Adam a péché, non à cause des péchés qui lui auraient été transmis par son père, c'est-à-dire Dieu, mais parce qu'il avait choisi délibérément de marcher selon le train du monde, ce qui comportait notamment, comme nous l'avons vu, l'attrait des choses purement charnelles et visuelles, ainsi qu'un orgueil pratiquement démesuré. Satan, le prince de ce monde, les avait trompés au-delà de toute expression. Et serait-il raisonnable de penser, par exemple, que l'apôtre Jean, qui très souvent parle avec une profonde tendresse, en disant « mes petits enfants », se soit adressé ainsi à des créatures dépravées par nature et mortes par le péché? Ceux qui étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés, et dont parle la Bible, étaient séparés de Dieu parce qu'ils avaient librement choisi de suivre la voie de la transgression. L'apôtre Jean explique ce que Dieu entend par « marcher selon le train de ce monde ». « N'aimez point le monde, dit-il, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Un autre apôtre, Paul cette fois, déclare dans son épître aux Éphésiens, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Si les enfants naissent pécheurs, totalement dépravés d'office, et ainsi par définition des enfants de Satan, il faudrait alors conclure que Dieu a inspiré les apôtres pour leur faire dire que ceux qui le suivent sont des enfants du diable. Il s'agit là d'une théorie et d'une doctrine absurde, et par conséquent dénuée de tout fondement biblique. Le fait de mourir par le péché se rapporte non à l'état de l'être lorsqu'il naît dans le monde, mais à la parenté, à l'étroitesse des liens existants entre le nouveau-né et son Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Il en est de même qu'au temps de l'Ancien Testament. Les propres péchés commis par l'homme le séparent avec son Créateur, arrachent le cordon nourricier le reliant au Père. Écoutez Ésaïe dire, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Mais quelqu'un pourrait demander, Paul n'a-t-il cependant pas dit que l'homme est pécheur par nature? Il n'en est rien, croyez-le. L'homme est pécheur, mais cette conclusion est par trop hâtive. L'apôtre Paul a bien dit aux Éphésiens qu'ils étaient par nature des enfants de colère comme les autres, mais le terme « nature » utilisé dans les Écritures ne peut vouloir parler d'une nature innée de l'homme. La Bible dit au contraire que la nature de l'homme le pousse à honorer son Dieu, car Paul parle en ces termes. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms, et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout, le Nouveau Testament, notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements, et ceux des apôtres, ont autorité dans nos vies. Parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle nous dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086 Toulouse-Sedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086 Toulouse-Sedex, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.